C'est jeudi, j'ai psy. Bonjour Armelle.
Bonjour Sylvie.
En ce 8 mars, puisqu'on enregistre le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, tu m'as proposé une thématique bien intéressante pour ce C'est jeudi, j'ai psy. Qu'y a-t-il dans le cerveau des femmes ? Alors on va peut-être commencer par le commencement. Est-ce que le cerveau des femmes et le cerveau des hommes sont différents ?
Eh bien non. mais cela dit, on ne le sait pas depuis très longtemps. Hein. Vraiment, il faut attendre le début des années 2000 et même un petit peu au-delà. Il y a encore quelques années, moi je me souviens quand j'étais déjà adulte et maman, etc., avoir entendu des anthropologues qui se targuaient d'avoir compris pourquoi les hommes, par exemple, ne trouvaient jamais ce qu'il y avait devant leurs yeux dans la maison, tu sais, t'ouvres le placard où est le sucre, ben, il est devant tes yeux, chérie, bon. Et ben, ces anthropologues-là disaient que c'était parce que ça datait de la préhistoire, que l'homme était habitué à chasser, donc à regarder loin, alors que la femme s'occupait des enfants dans la grotte, elle regardait près. Bon. Donc, voilà, à cette époque-là, on disait encore qu'il y avait cette espèce d'héritage morphologique dans le cerveau des femmes. Eh bien non, maintenant on sait que c'est pas vrai, donc ils doivent trouver le sucre quand ils ouvrent le placard. Le cerveau de la femme et le cerveau de l'homme sont parfaitement identiques en morphologie. Voilà. Ce qui change. La nuance, il y a deux nuances. La première nuance, c'est effectivement ce qui va se passer au niveau des hormones, puisque les hormones et le cerveau sont liés. Là, effectivement, les hormones ne fonctionnent pas tout à fait de la même manière chez les hommes et chez les femmes. Et puis, ce qui change surtout, hein, et là, on en revient à notre histoire de genre de la semaine dernière et à tout ce qui se passe sur ce mois des droits des femmes, ce qui change surtout, c'est la manière dont ils vont choisir de l'utiliser, leur cerveau.
On va parler notamment de charge mentale. C'est un concept dont on entend parler de plus en plus. Sylvie Chocron a publié un ouvrage qui est passionnant apparemment, c'est « Le cerveau d'Anna, notre quotidien décrypté par les neurosciences ». Alors,
oui.
Qu'est-ce qu'elle nous apporte en plus ?
Il faut quand même remarquer que dès qu'il s'agit d'étudier le cerveau des femmes pour montrer justement qu'il fonctionne parfaitement bien, voire peut-être parfois mieux que celui de certains hommes, ce sont les femmes qui s'y collent. Hein. Mmh. Donc il y a d'abord eu les travaux de la neurobiologiste Catherine Vidal avec deux ouvrages super justement hein, sur le cerveau. Et puis après, là, très récemment, la neuropsychologue qui est aussi directrice de recherche au CNRS, Sylvie Chocron, qui vient juste de publier, hein, c'est un livre qui est très récent, je crois que je l'ai acheté en janvier, « Le cerveau d'Anna, notre quotidien décrypté par les neurosciences ». Et alors là, franchement, c'est un régal. En fait, elle a suivi Anna, elle campe un personnage qui s'appelle Anna, qui est une femme active, et elle la suit de 6h45 à 0h15, sur toute une journée. Et elle décrypte en fait comment toutes ses expériences du quotidien montrent de quelle manière son cerveau fonctionne et ce qu'elle mobilise comme compétence, ce qu'elle sollicite comme compétence. Et en fait, dans toutes ces expériences, il y a aussi bien du sensoriel que du cognitif, que de l'émotionnel. Donc c'est vraiment tout ce qu'on va traverser dans une journée, les interactions avec les collègues, s'occuper des enfants, anticiper, se faire du souci pour quelque chose, programmer, s'organiser, etc. Donc il y a à la fois les moments qui sont agréables et puis les moments qui sont aussi un petit peu moins, notamment des moments de soucis. Donc on va y retrouver tout ce qui concerne la gestion du stress et la fameuse gestion du mode multitâche qui nous caractérise, hein, nous les femmes, donc dans le quotidien d'Anna, et c'est là qu'on arrive à la fameuse charge mentale dont on parle beaucoup maintenant.
Alors avant de développer la charge mentale, tu disais effectivement c'est la façon dont on s'en sert qui nous différencie, hommes et femmes, parce qu'effectivement on se rend compte que c'est pas forcément les mêmes zones qui sont mises à contribution.
Oui, tout à fait. Alors ça, il y a une étude très intéressante menée aux USA en 2017, donc ça reste quand même assez récent, qui semble même démontrer que le cerveau des femmes a une activité plus intense que celui des hommes. Je dis « semble démontrer » parce que je suis pas spécialiste, toi non plus, il ne s'agit pas non plus de relayer des choses qu'on ne maîtrise pas, mais enfin, en tout cas, moi, j'ai lu une partie de l'étude. L'étude a porté sur presque 27 000 malades et 119 volontaires qui, eux, étaient en bonne santé. Donc, ça permettait d'avoir des repères différents. Et donc, ils ont accepté de faire analyser l'activité de leur cerveau en temps réel. Donc, on retombe un peu sur le travail de Sylvie Chocron. Et en fait, avec le scanner, on peut observer l'intensité de l'irrigation par le sang. Hein, ce qui va faire que, parmi les zones analysées, on va voir celles qui sont le plus irriguées, donc le plus activées. Par exemple, dans le cas d'une tâche intellectuelle, hein, qui va nécessiter de la concentration, de l'attention, on a 48 zones qui s'activent dans le cerveau féminin. Voilà, attention, concentration, 48 zones chez les femmes, chez les hommes, 22. Voilà. Donc, ce qu'on observe aussi chez les femmes, c'est qu'il y a une activité beaucoup plus importante dans ce qu'on appelle le cortex préfrontal, qui, lui, va jouer un rôle vraiment très important dans tout ce qui relève des pulsions, de la prise de décision. Hein. Mmh. Et on a aussi une activité qui semble plus intense dans le système limbique. Et là, c'est ce qui est responsable des émotions, de l'humeur et, hélas, malheureusement aussi, l'anxiété hein, qui va avec l'émotion et l'humeur. Donc, en fait, on se rend compte qu'il y a une activité qui est beaucoup plus intense, qui est beaucoup plus diversifiée. Donc le cerveau des femmes semble plus sollicité, plus souvent, de manière plus forte.
Alors tu disais effectivement dans la zone du cortex préfrontal, et dans la préparation, tu m'as fait passer des éléments et disant que ça expliquait notamment la grande aptitude, une plus grande aptitude à l'empathie, à l'intuition, au savoir-faire collaboratif, mais aussi, malheureusement, l'intensité de cette activité cérébrale qui pourrait expliquer que les femmes sont plus sujettes que les hommes aux maladies cérébrales.
Oui, notamment Alzheimer et la dépression, ouais. Oui.
Ça serait 5,5 malades d'Alzheimer, les deux tiers sont des femmes.
C'est
et
ça.
elles sont aussi deux fois plus sujettes à la dépression, et ça pourrait venir effectivement de cette activité cérébrale. Cette activité cérébrale, la charge mentale, en fait partie. Alors, qu'est-ce qu'on appelle exactement la charge mentale ?
Alors, la charge mentale, ça va regrouper toutes les tâches. Toutes les tâches qui vont être liées à tout ce qui concerne la maison, les enfants. Alors, avant, on parlait beaucoup de tâches domestiques, mais ça pose problème au niveau de la terminologie, parce
Bien
que
sûr.
Mettre s'occuper des enfants dans les tâches domestiques, c'est pas très heureux. Donc, vraiment, on est plutôt sur tout ce qui est lié et à la maison et aux enfants. Et ce qui est intéressant, c'est que ces tâches, en fait, on ne pense pas forcément à les décomposer. Par exemple, on se dit, bon, bah, c'est vrai, dans la journée, il faut que je pense à les emmener à l'école, à aller au boulot, à gérer leur pas et puis à gérer les enfants le soir. Bon. Et en réalité, si on décompose toutes ces tâches en sous-tâches, on se rend compte de l'immensité du travail d'anticipation, d'organisation, donc logistique, que les femmes doivent accomplir, avec tous les soucis qui vont avec. La peur d'oublier quelque chose, la peur de l'avoir mal fait, la peur de ne pas l'avoir fait, etc., etc. La peur de se tromper de jour, tu vois, tout ça. Donc en réalité, il y a énormément plus de tâches que ce à quoi on pense. D'ailleurs, on entend des hommes parfois qui disent « Oui, bon, ça va, hein, c'est juste s'occuper des enfants. » Ben non, s'occuper des enfants, voilà, s'occuper des enfants, ça va de « Oui, le prendre, le laver », jusqu'à dire « Il faut que je pense à racheter du gel douche pour les enfants, il faut que je pense à prendre le rendez-vous chez le pédiatre pour ce week-end, etc. »
Voilà, c'est ça, oui.
Et oui, voilà.
Et là, d'acheter le cadeau pour le copain chez qui, ou la copine
tout,
chez qui ils vont à l'anniversaire, etc.
Mais exactement, il y a tout ça aussi. Et ça, ça a été très, très bien démontré par un sondage britannique en 2013 qui, en fait, recensait toutes les tâches donc liées à la maison et aux enfants avant même de commencer la journée de travail, donc les tâches qui incombaient aux femmes. Et en fait, ils ont distingué 26 tâches avant d'aller bosser. Tu te rends compte, avant d'aller bosser, 26 tâches à accomplir déjà, rien que pour la maison et les enfants. Et ça a été quantifié, on a montré que ces tâches occupaient 6h45 par jour dans la vie d'une femme. 6h45 par jour. T'enlèves les quelques heures de sommeil et le temps de travail, tu comprends pourquoi on est crevé.
La charge mentale, c'est une chose, mais l'overthinking, c'est aussi une des particularités féminines, pourrait-on dire.
Ben oui, tout à fait. Alors, elle est rigolote, cette expression, l'overthinking. Ça décrit une activité du cerveau continue, perpétuelle et ininterrompue. C'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais. Et c'est sûr que ça permet d'avoir une très, très grande efficacité, notamment dans la logistique, mais ça épuise. Hein. C'est ce qui fait que, je ne sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé, mais moi, ça m'est déjà arrivé de me réveiller en pleine nuit en me disant « Oh, j'ai oublié de faire ça. Il ne faut pas que j'oublie de faire ça demain. » Et donc là, tu te lèves, tu te casses le sommeil, tu notes le truc ou tu prépares ce qu'il faut, et puis ton sommeil est foutu. Donc ça te mène à l'épuisement physique et puis à l'épuisement psychique. Et ça a été conceptualisé par une psychologue qui est chercheuse à l'université d'Yale, qui a d'ailleurs publié beaucoup d'ouvrages très intéressants, dont un qui s'appelle « Pourquoi les femmes se prennent la tête ?». Hein. C'est un bouquin assez récent de 2013. C'est un bouquin qui est passionnant et qui est même assez drôle parce qu'elle a réussi quand même à mettre de la légèreté là-dedans. Et elle montre que les femmes sont évidemment beaucoup plus concernées par ça que les hommes. Hein. Aussi sans doute parce qu'elles sont beaucoup plus à l'écoute des besoins des autres. Hein. C'est-à-dire que tu ne te retrouves pas en surcharge mentale si tu n'as que toi à penser. D'ailleurs, nous les mamans, on s'en rend bien compte. Les rares fois où on a l'occasion d'être un peu seul sans les enfants, on a presque l'impression qu'on a trop de temps libre. Mais oui, on n'a plus rien à gérer, c'est vertigineux, c'est pas faire. Donc, en réalité, c'est ça. Il faudrait réussir à ne pas être débordé par la préoccupation des autres en plus de la nôtre. Or, quand tu es maman, eh ben, tu n'as pas le choix. Il faut bien te préoccuper et t'occuper des enfants.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand même pour remédier à tout ça, ou au moins pour le rendre plus léger ?
Eh bien, écoute, je crois que les mamans, là, il faut qu'on arrive à prendre de la distance. Il faut qu'on arrive à ne pas tout faire de manière parfaite. Il faut qu'on arrive à rationaliser aussi. Est-ce que ça, c'est tellement urgent ? Est-ce que ça, c'est tellement important ? Est-ce que, justement, tu donnais cet exemple très précis tout à l'heure, penser au cadeau d'anniversaire du copain qui a invité ton fils ce week-end pour son anniversaire, est-ce que c'est vraiment la priorité ? Est-ce que ça ne peut pas être juste un petit cadeau à l'arrache acheté comme ça ? Est-ce qu'il faut entreprendre une expédition dans un magasin de jouets pour ça ? Voilà, on peut peut-être essayer juste de rationaliser, de prioriser, et puis de se dire, ça c'est moins grave, ça c'est plus grave, ça c'est important, rendez-vous chez le pédiatre ou chez le médecin, c'est important, mais le cadeau d'anniversaire du copain, ça l'est beaucoup moins. Il n'a pas des fringues parfaitement repassées ou assorties, c'est pas très grave non plus. L'essentiel, c'est qu'il soit habillé et puis que ça convienne à la saison. Bon, donc il y a un moment aussi où il faut arriver à être indulgente avec soi, à pas chercher à être une maman parfaite, une femme parfaite, une salariée parfaite, une tout ce que tu veux parfaite. Il ne faut pas chercher à être parfaite. Et puis, il faut se dire qu'on fait déjà énormément de choses et que dans la mesure du possible, on le fait bien. Et puis surtout, peut-être chercher à détourner son attention de ce qui va commencer à ruminer dans la tête. Tiens, j'ai pas fait ça, je l'ai pas fait assez bien, j'aurais dû le faire, etc. Là, tu lâches en fait, tu lâches prise, tu pars, tu vas faire un tour. C'est pas résolu, de toute façon, là, je vois bien que j'y arrive pas, je suis complètement submergée, je lâche l'affaire, je pars marcher un quart d'heure, 20 minutes, ça va me faire du bien, ça va m'aérer, je regarde le ciel, j'écoute les oiseaux, je regarde là les bourgeons qui commencent à apparaître de partout, ouh, ça fait du bien, je reviens à la maison, je suis un peu plus fraîche. Mmh. Ou alors, je fais quelque chose, qui me permet d'évacuer la pensée qui me submerge. Alors, ça va être, moi, j'aime bien cuisiner, alors que dès qu'il y a un peu des odeurs de plats qui mijotent, ça me détend, donc je vais me mettre à cuisiner, comme ça, en même temps, je fais un truc qui est quand même utile, qui va servir à tout le monde, mais ça me permet de ne pas réfléchir à ce moment-là. Ou alors on dégaine Netflix et puis on se fait une petite série ou un petit bout de série. Mais bref, il faut aussi se dire qu'on a le droit de ne pas être parfaite, mais surtout qu'on a le droit de passer à autre chose à un moment. On n'est pas obligé d'aligner de manière comme ça, parfaitement chronologique toute la journée. Ne pas forcément faire les choses dans l'ordre habituel, parce que justement aussi c'est cet ordre qui nous submerge et qui nous fatigue.
Merci beaucoup Armelle. On va essayer de prendre soin de nos cerveaux. On a toute tendance à en rajouter, donc allons prendre l'air. Ça permet aussi de casser justement cette espèce de folie, de train qui dévale.
Et puis surtout de train qui dévale pour les autres. Le moment où on est submergé, c'est le moment où on en fait trop pour les autres.
Merci beaucoup, Armelle.
Merci, Sylvie.
À bientôt.
À bientôt.
C'est jeudi, j'ai psy.